Yes, les sept visages de Jésus. J'aimerais dire félicitations à toute l'équipe, que ce soit les acteurs, les intercesseurs, la mise en place, les graphistes, etc., pour ce teaser de présentation de cette série de messages. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur Internet. Bonjour à vous qui êtes là ce matin pour ce lancement de série. Très, très heureux, vraiment très heureux de pouvoir lancer les sept visages de Jésus aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. Je sais qu'on a démarré un petit peu sur les chapeaux de roue. Et ça fait partie du monde dans lequel on est. Il n'y a rien de parfait. Ça ne se déroule pas toujours comme on voudrait. J'aimerais qu'on puisse se lever et j'aimerais qu'on puisse faire une acclamation. Pas une acclamation pour ceux et celles qui ont travaillé. Pas une acclamation pour les uns et les autres, mais une acclamation pour Jésus, le roi des rois. J'aimerais qu'on puisse réaliser quelques instants qu'il y a des gens qui ont dit que la Bible n'existerait plus. Il y a des gens qui ont dit que l'Église n'existerait plus. Il y a des gens qui ont dit que Jésus, ça vaut rien. Mais aujourd'hui encore, à la veille de 2020, il y a encore une église et on n'est pas la seule. Il y a des dizaines et des dizaines d'églises partout à travers le monde qui se réunissent et qui célèbrent le nom de Jésus. Alors est-ce qu'on peut se lever puis acclamer notre Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait? Sois loué, Seigneur Dieu, nous te donnons toute la gloire. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi les mérites. Seigneur Dieu, sois loué dans ce lieu, sois élevé, sois mis aux éloges. À toi Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, nous te louons, nous te disons merci. Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, nous vivons dans ce monde imparfait. Seigneur Jésus, mais toi, tu es parfait. Et quelle grâce, quel bonheur de pouvoir nous associer à toi et vice-versa. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce repas que nous avons célébré, merci pour le privilège de pouvoir entendre et partager et vivre ta parole. Merci parce que tu n'es pas une légende, tu n'es pas une invention. Il n'y a rien ni personne qui ne peut t'arrêter. Aussi vrai que personne ne peut empêcher la pluie de tomber sur la terre, personne ne peut t'empêcher, Seigneur, d'agir et de bénir les hommes et les femmes qui en ont besoin et qui sont prêts à écouter, être suffisamment curieux pour savoir qui tu es. Prends la place qui te revient dans les prochaines minutes et alors que nous allons parler de toi, je prie, Père, que par ton esprit, tu sois celui qui se révèle lui-même. Seigneur, ce matin, je confesse que je n'ai rien à dire. C'est ta parole simplement qui nous dit des choses à ton sujet et c'est ton esprit qui les applique dans nos cœurs. Alors Seigneur, révèle-toi. C'est de toi que nous voulons parler aujourd'hui. C'est de tes visages, de ton caractère, de qui tu es. Prends la place qui te revient ce matin. Tu connais les besoins de chacun, les défis, les déceptions, les aspirations. Et je prie maintenant que tu puisses, Seigneur, d'ores et déjà entamer un processus, si ça n'a pas déjà été fait, un processus de restauration, de révélation, de guérison, de bénédiction. Sois loué, Père. Amen. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Nous allons passer 7 semaines sur les 7 visages de Jésus. Et pourquoi les 7 visages de Jésus? Parce qu'à 7 reprises, Jésus va dire « Je suis ». Je suis ceci, je suis cela. Et à chacun de ces « je suis », à chacun des « je suis » de Jésus, il va se révéler, il va révéler un aspect de son visage. Ou si vous préférez, une caractéristique de sa personne. Nous allons regarder, voici les titres rapidement, vous les avez sous forme de dessin devant vous. Mais le titre d'aujourd'hui, c'est simplement « Je suis l'introduction » ou « La porte ». « Je suis l'introduction ». Nous verrons ensuite « Je suis la vision ». « Je suis la protection ». « Je suis la signalisation ». « Je suis la provision ». « Je suis la connexion » et « Je suis la destination ». Ce matin, vous avez remarqué très certainement, vous n'avez pas le choix de le remarquer, que les grandes portes habituelles de l'église étaient verrouillées de façon à vous faire passer par la petite porte qui mène à la grande salle. C'est vrai? Pour la plupart d'entre vous, peut-être les musiciens, non, parce qu'ils sont arrivés un petit peu plus tôt. En fait, pourquoi? C'est une façon de nous faire comprendre qu'il n'existe qu'une seule porte d'entrée pour nous introduire dans la grande salle de sa présence. Une façon de concrétiser, de visualiser qu'il n'existe qu'un seul moyen d'accéder à la grande salle de sa présence. Et cette porte d'accès, ce n'est pas la religion. Cette porte d'accès n'est pas nos bonnes œuvres, ne sont pas nos principes, ne sont pas nos valeurs. Cette porte d'accès dans la grande salle de sa présence n'est même pas l'Église. Cette porte d'accès, c'est sa propre personne, c'est Jésus lui-même. Je suis l'introduction. Jésus aurait pu dire « Je suis l'introduction ». Une introduction, c'est le moment important. On l'a vu ce matin. On a prévu une introduction. Ça n'a pas été tout à fait comme on voulait. Oh, c'est important une introduction. Ça te permet de bien partir, ça te permet de bien démarrer et ça t'amène sur autre chose. Jean chapitre 6, verset 11. Jean chapitre 10, pardon, du verset 6 à 11. On commence au verset 6. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Je me suis dit, si lorsqu'ils avaient Jésus devant eux en live, sous leurs yeux, ils n'ont pas compris ce qu'il voulait leur dire, je me suis dit, en 2020 presque, imagine-toi aujourd'hui, on ne va rien comprendre. Fait que j'ai dit, on va laisser les versets précédents, on va aller directement à la suite. Mais inquiétez-vous pas, on va revenir par la suite de cette, dans la suite de cette série sur les versets précédents. Une parabole, une histoire que Jésus leur raconte, mais ils comprennent rien. Les disciples ne comprennent pas. On arrive au verset 7. Alors il reprit, vu qu'ils ne comprennent pas, « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » On va regarder à trois choses. Nous allons regarder aujourd'hui à une porte ou à une introduction qui n'existait pas. Une porte ouverte à tous. Une porte ou une introduction qui change notre destinée. Premièrement, la porte dont il est question, elle n'existait pas. Et pour bien comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il se présente sous le visage d'une porte, c'est quand même curieux, hein? Lorsqu'il se présente sous le visage d'une porte, nous avons besoin de bien comprendre quelque chose. Prochaine diapo, c'est pas de comprendre Bob l'éponge, mais sur le profil Humour du Dimanche Instagram, il y a eu ce mime, ce qu'on appelle un peu comme ça en fait, et qui dit voilà, tellement de richesses à méditer dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. On a besoin de comprendre quelque chose. C'est que la Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et une des choses que j'apprécie, c'est que si vous désirez une Bible, si vous désirez une Bible, on ne va pas juste vous donner un Nouveau Testament ou les psaumes ou une partie de la Bible. On va vous la donner au complet. Et parfois, on a une lecture de la Bible, on se dit, ben, l'Ancien Testament, ouais, c'est dur à comprendre, puis ça, non, mais moi, je préfère le Nouveau. D'autres vont dire, ben, le Nouveau, ouais, c'est ceci, mais moi, j'aime bien l'Ancien Testament parce qu'il y a de la guerre, il y a du sang, etc. Bon, remarque, je n'ai pas souvent entendu cette réflexion, mais c'est peut-être moi, en fait, qui fais cette réflexion-là. Mais on a besoin de comprendre que c'est ce qui la Bible, en fait, l'Ancien et le Nouveau sont les deux faces d'une même médaille. C'est ce qui fait la richesse de la parole de Dieu. Où est-ce que je veux en venir? C'est qu'on a besoin de comprendre justement que l'Ancien et le Nouveau ne sont pas là pour se contredire, ne sont pas là pour s'opposer, mais il y en a un qui fait écho à l'autre. Ils se complètent, ils se comprennent. On comprend la Bible dans la mesure où on comprend l'un et l'autre. Et pour comprendre les paroles que Jésus va dire lorsqu'il dit « Je suis la porte », on a besoin de comprendre une partie de l'Ancien Testament. Et il y a deux événements majeurs dans la Bible, un dans l'Ancien, un dans le Nouveau, qu'on a besoin de saisir pour nous aujourd'hui. Il y en a d'autres, évidemment, mais deux que j'aimerais qu'on puisse souligner. Le premier événement, c'est celui où Israël est sous l'empire des Égyptiens et qu'il va connaître une délivrance. Une délivrance grâce à quoi? Grâce à un sang, le sang d'un agneau qui est parfait, qui n'a aucune tache sur lui, qui va être étalé sur les linteaux des portes. Et l'ange de la mort va arriver. Il va protéger tous ceux et toutes celles qui sont sous la protection de ce signe du sang qui est mis sur le linteau des portes. Délivrance qui va suivre son cours par la traversée de la mer Rouge sous la conduite de Moïse. Premier événement. Deuxième événement dans le Nouveau Testament. Eh bien là, c'est pas la délivrance d'Israël sous l'Égypte, mais c'est la délivrance de tous ceux et de toutes celles, des quiconques qui croient que Jésus est mort à la croix. Et là, c'est pas un agneau animal, c'est vraiment un homme, c'est Dieu sous la forme d'un homme qui est parfait. Et tous ceux qui placent leur foi en lui connaissent cette délivrance-là, connaissent et vont connaître une nouvelle destination. Et il y a une mer qui va s'ouvrir, un avenir nouveau qui va s'ouvrir devant nous, non pas sur la conduite de Moïse, mais sous la conduite de Jésus. Le Saint-Esprit était en train de préparer, en fait, la venue de Jésus. Et dans ce contexte-là, il faut comprendre ceci, c'est que entre cet événement que j'ai décrit en Égypte, Israël, / dans le Nouveau Testament, entre deux, le peuple de Dieu a eu des hauts et des bas. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des hauts et des bas dans leur foi, dans leur vie spirituelle? Yes, moi je lève les mains, les pieds, tout. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où ils étaient proches de Dieu, d'autres non. Il y a eu des moments où ils ont été abusés par des faux prophètes, des faux bergers, des faux pasteurs, des méchants. Ils se sont même abusés les uns envers les autres entre eux. Ils ont été dispersés, ils ont été éparpillés, pillés. Ils ont vécu vraiment des moments difficiles. Autrement dit, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, souvent on imagine que Israël, le moment où il a tourné en rond, on pense toujours à Israël pendant 40 jours dans le désert, il a tourné en rond alors qu'il aurait pu prendre directement le raccourci qui était nécessaire. La vérité, c'est qu'Israël a tourné en rond pendant toute sa vie, cherchant à, par ses propres œuvres et ceci, puis à chaque fois, oui, je me rapproche, puis en fin de compte, fait des erreurs, se repent, recommence, tourne en rond. Ils étaient dans une situation sans issue par rapport au mal qu'il y avait à l'intérieur de leur vie, dans leur cœur. Alors évidemment qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient là, mais Dieu était en train de préparer le chemin pour dire à un moment donné, c'est moi qui vais venir prendre la place. Et c'est là qu'on arrive dans Michée. Je fais rapidement. On arrive dans Michée. Je vous invite à revisiter Michée. Allez le voir, ça va lui faire du bien de vous voir. Allez voir Michée, là, il va être content de vous voir. Je vous le dis, c'est un livre qui est vraiment qui mérite d'être relu. Moi, je l'ai dépoussiéré dans la semaine qui vient de passer derrière nous et ça m'a vraiment nourri, béni. Et Michée, parmi les dizaines et dizaines de prophéties, d'annonces, de prédictions, appelez-le comme vous voulez, concernant la venue de Jésus, il y en a plusieurs et il y en a quelques-unes d'ailleurs dans Michée, plusieurs. Mais parmi toutes les dizaines de prophéties, voici là, on trouve quelque chose par rapport à la venue de Jésus ou la personne de Jésus. Michée chapitre 2, versets 12 à 13. Donc là, encore une fois, rappelons-nous, on est dans un contexte où Israël tourne en rond, dans un contexte où ils sont abusés, dans un contexte où ils sont dans le noir, il n'y a pas de solution. On arrive ici, il dit ceci, verset 12. « L'Éternel le déclare, je les ferai venir ensemble comme un troupeau d'agneaux dans un enclos. Ils seront comme des brebis au milieu de leur pâturage. On entendra le bruit d'une foule humaine en tumulte. Celui qui fait la brèche marchera devant eux, ils se presseront par la brèche, ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. » Ils seront comme des brebis, il compare son peuple comme des brebis. Ils seront dans un enclos, comme un pâturage, voulant dire par là qu'ils vont arriver dans un endroit où ils vont pouvoir se nourrir, se désaltérer, un enclos, ils vont être en sécurité, ils ne seront plus dispersés, ils ne seront plus menacés. Et alors qu'ils n'avaient aucune solution pour leur propre vie, pour leur propre âme, pour leur propre péché, aucune solution pour sortir de l'empire du mal, là il y a une prophétie claire, il y a une annonce claire qui arrive au verset 13, celui qui fait la brèche marchera devant eux. Et lorsque Jésus est en train de dire « Je suis la porte, c'est moi qui suis la porte », il fait précisément allusion à cet événement-là, à cette prophétie-là. Il fait précisément allusion à ce moment-là où il y a une brèche qui est faite. « Je suis l'introduction ». Autrement dit, « Je suis la brèche ». Je vois que certaines personnes, on ne réalise pas, mais la première chose que tu as besoin de comprendre, tant que tu ne réaliseras pas que tu tournes en rond, que par toi-même tu n'y arrives pas, tu ne pourras pas réaliser l'importance d'une porte offerte en Jésus. Je vois qu'il y a des gens, on ne réalise pas, mais c'est comme si pendant des siècles, il y avait eu un dôme, d'ailleurs une série là-dessus, hein, le dôme, comme s'il y avait un dôme sur l'humanité, un dôme sans aucun accès de sortie. Partout où tu vas, tu tournes en rond, tu frappes en haut, tu n'arrives pas à percer. Tu tournes en rond, tu ne peux, il n'y a aucune solution, aucun moyen de s'en sortir. La porte dont on parle ici n'a pas toujours existé. Une porte qui n'existait pas. Une porte qui n'existait pas. Et ça, c'est un cauchemar. Et peut-être que c'est ta situation aujourd'hui que tu es là ou tu écoutes ce message, mais c'est peut-être ta situation où tu vis un cauchemar, culpabilité, honte, tu fais des choses que tu ne voudrais pas faire, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et là, tu es dans un cycle vicieux, puis tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es comme, je ne sais pas si je suis le seul, mais moi je me rappelle, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, surtout quand j'étais enfant, où tu dormais chez des amis, tu te réveilles en pleine nuit, tu as un besoin pressant d'aller aux toilettes, et puis là, tout est noir, et tu passes, je ne sais pas combien de temps, à trouver la porte de sortie. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça ou je suis tout seul? Ouais, j'en dis, OK. Hey, c'est angoissant. C'est vraiment angoissant. Tu te lèves, puis là, tu tapes, puis tu cherches. Là. Puis là, tu es sûr que tu n'es pas très loin. Mais en fait, pas du tout. La porte, elle est là, mais toi, tu es dans le garde-robe. Mais en plus, tu as besoin pressant d'aller aux toilettes, puis tu veux sortir, puis tu n'es pas chez toi, tu es angoissé, puis tu cherches, puis c'est la nuit génère quand même quelque chose d'assez insécurisant, à plus ou moins faible, faible degré, selon les personnes. Et là, tu cherches la sortie. Et là, moi, ça m'est arrivé quasiment en mode panique. Elle ouvre la porte, elle ouvre la porte. Maman! Je veux un bébé! En fait, ce n'est pas la porte qui est importante, c'est pourquoi tu veux la porte. Mais il y a quelque chose de profond dans ce que je viens de dire sans le vouloir. Ce n'est pas prévu, mais il y a quelque chose. C'est pas tellement là. Je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas important, comprenez-moi. Et en fait, l'humanité se trouvait comme ça dans une chambre, dans le noir, avec un besoin pressant d'être délivré de son péché, de son mal intérieur. Il ne trouve pas. Et Michée, 700-720 ans, on ne va pas s'arrêter sur les détails, environ 700 ans avant la venue, la naissance de Jésus, 700 ans! 700 ans avant, il s'adresse à une humanité qui est sous le dôme dans cette chambre noire et il dit, l'Éternel le déclare, je les ferai venir ensemble comme un troupeau d'agneaux dans un enclos, ils seront comme des brebis au milieu de leur pâturage, on entendra le bruit d'une foule humaine en tumulte. C'est comme si tout d'un coup, je vous disais, ok, on va juste rester calme, mais on vient d'apprendre qu'il y a une bombe. Elle ouvre la porte. Il y a un bruit. Pourquoi? Parce que celui qui fait la brèche, et maintenant on sait que c'est Jésus, celui qui fait la brèche, juste un mot, celui qui fait la brèche, c'est pas juste, oh, on va dessiner une porte et on va la faire toute jolie. Il y a une brèche qui a été ouverte pour briser ce dôme. Pour briser cette situation sans issue. Celui qui fait la brèche marchera devant eux. Ils se presseront par la brèche. Ils franchiront la porte et sortiront par elle. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. J'aimerais te dire que si tu as placé ta foi en Jésus, il y a un roi qui marche à ta tête. Il y a un roi qui précède ta semaine. Il y a un roi qui est déjà là lundi matin à la machine, à je ne sais pas comment on appelle ici, à puncher pour travailler. Il y a un roi, il y a un Seigneur qui précède ton chemin. Il y a une brèche qui a été faite. Ils réalisent. On entendra le bruit d'un tumulte. Ils vont se presser. Pourquoi? Comme quelqu'un qui a soif, il y a une porte ouverte. C'est comme si il y a le feu qui est pris et tout d'un coup, quelqu'un arrive à défoncer cette porte. Bam! Et là, je vous garantis qu'il y a un bruit qui va. On court, on se presse. C'est exactement ce que Michée est en train de nous décrire. On n'est pas dans de la romance ici, là. On est dans une situation d'urgence. D'ailleurs, on entend le bruit de la pluie. Si je vais ici, il y a un autre univers. Je suis dans la bénédiction de la pluie. Mais si je reste ici, je suis dans la sécheresse. Et il y a des gens dans votre vie où aujourd'hui, je vais la fermer tout à l'heure. Mais aujourd'hui, tu es dans la sécheresse et tu as besoin de passer la porte pour recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que tant que tu es ici, tu ne pourras pas connaître. Tu peux rester ici, entendre le bruit de la pluie, sentir l'odeur de la pluie, sentir l'air frais, mais tu n'es pas sous la pluie. On peut venir des dimanches, puis aimer l'ambiance, aimer nos amis, aimer la louange, aimer ce qu'on prend place. Mais à un moment donné, cher ami, s'il te plaît, viens avec moi. Laisse-toi tremper. Merci Seigneur pour cette pluie, ça tombe bien. Ils sortent de ce lieu enflammé de sécheresse pour aller dans un vert pâturage arrosé de la bénédiction de Dieu. Alors quand Jésus dit « Je suis la porte », c'est ça qu'il est en train de dire. Puis ça, ce n'est pas la religion. Ça, ce n'est pas en sortant demain matin et dire « Ah ben là, si je lis bien ma Bible pendant cette semaine et que si je fais mes prières, alors là j'ai vraiment accès à la salle de la présence de Dieu. » Non. Si tu mets ta confiance en Jésus, tu vas goûter à sa présence. Quelle bonne nouvelle. Dieu, prochaine diapo, est à la fois la brèche, slash la porte, ou l'introduction, qui nous permet de sortir de notre condition tout en nous faisant entrer dans notre destinée. Prochain verset, on l'a déjà lu, mais je le relis. Cette fois-ci, on revient dans le nouveau. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Remarquez le détail. Michée nous dit, ils franchiront la porte et sortiront. Ils sortiront de leurs conditions, leurs conditions passées, leurs conditions de péché, leurs conditions humaines, leurs conditions de leur propre suffisance. Ils sortiront. Et Jésus dit, celui qui me suit, celui qui entre par moi. C'est un peu le but de la porte. Hein? Ça te permet de sortir et d'entrer. Là, le détail qui est vraiment fort, toujours verset 9, il pourra aller et venir librement. Avant, on avait un peuple, nous étions dans une condition où nous avions besoin de sortir parce que nous étions prisonniers. Mais lorsque tu rentres en Jésus, tu n'es pas prisonnier. Tu peux aller et venir. Yo! Venir en Jésus, ce n'est pas rentrer dans une secte, ce n'est pas rentrer dans une religion, ce n'est pas rentrer dans un système où tu es bloqué, où tu es pris là, où c'est que des « tu n'as pas le droit de » parce que tu es ceci, parce que tu es... Non, venir en Jésus, là, celui qui rentre par moi pourra venir et aller. Il trouvera de quoi se nourrir. Et là, je m'adressais à ceux et celles qui sont chrétiens depuis des années. Moi, je suis la porte, ça m'a parlé, ça fait des années que je connais le Seigneur. En tout cas, que j'apprends à le connaître. Ce serait plus juste dit. Puis là, je me dis, mais en fait, cette porte, je l'ai franchie, ça fait des années. Puis des fois, je me pose la question jusqu'à quel point est-ce que j'ai exploré tout le pâturage qui est à ma disposition. Et pour certains d'entre nous, dans notre vie chrétienne, on en est encore aux bases de la foi. Puis c'est super, super important. J'ai passé avec mépris, bien au contraire. Mais on en est encore au début. Ça fait 6 ans, ça fait 10 ans. Puis à un moment donné, faut que tu prennes ton envol, puis t'es libre en Jésus. Je suis pas en train de dire libre, veut pas dire faire n'importe quoi. Dans notre tête, quand on entend libre, c'est je peux faire tout ce que je veux. Non, non, non. En fait, la vraie liberté, c'est la capacité de pouvoir dire non quand on aura envie de dire oui. C'est ça la liberté. Et il y a des personnes, des fois dans notre vie, on a franchi la porte, mais c'est le début. Là, j'aurais pu continuer, faire le tour. À partir de là, j'aurais pu, à partir de cette porte-là, j'aurais pu visiter à partir de là tout le pays d'Aix et plus encore. Et parfois, dans le Seigneur, on fait des années qu'on est chrétien, on franchit cette porte, mais on reste juste dans le parking, dans le petit pâturage en arrière, puis ça va. Puis ça, dans la Bible, tu peux découvrir les pâturages que le Seigneur a pour ta vie, pour notre vie. Le verset suivant, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je veux dire que la stratégie du diable, hein, le voleur ici, on sait que c'est le diable, c'est plus Pharaon, les Égyptiens, consiste à séduire par le mensonge dans le but de voler ta destinée en détruisant ta vie. La stratégie du diable, c'est principalement toujours la même, de séduire par le mensonge dans le but de voler ta destinée en détruisant ta vie. Dieu a une destinée pour nous, une destinée pour toi. Et la tienne est différente de la mienne, même si on a le même Dieu, le même Seigneur, le même pâturage, il y a des chemins différents, il y a des appels différents, il y a des talents différents, il y a des choses différentes. Et le diable chercha, alors que Jésus, à l'inverse, l'œuvre de Jésus a été de mourir pour nos péchés, dans le but de nous restaurer. C'est une porte qui est ouverte à tous, de nous restaurer dans notre destinée. Cette porte n'existait pas. Aussi vrai qu'il n'y avait aucun chemin dans la mer Rouge, ce chemin n'existait pas. Et surnaturellement, il y a un chemin qui était ouvert. Et par la suite, ce n'est plus une mer Rouge, mais c'est un avenir complet. C'est une porte qui change notre destinée au complet. Es-tu dans la destinée de Dieu? Sommes-nous dans la destinée de ce que Dieu veut pour nos vies? Ce n'est plus une porte de malédiction, de condamnation, de légalisme, de moralisme. La porte par laquelle nous franchissons, c'est une porte de délivrance, une porte de joie, la porte du salut qui s'est faite dans sa propre vie. C'est comme s'il s'était mis sur une des parois du dôme et puis que la colère de Dieu s'est abattue sur lui, les hommes, etc. Et là, il est cloué à gauche, cloué à droite, cloué en bas et puis la couronne d'épines. Si tu mets ça... Et plus on frappait sur lui, et plus on est en train de déchirer la paroi du dôme. Plus on frappait sur lui, plus il se faisait clouer, plus on l'insultait, plus on le bafouait. Et plus on faisait ça, plus il souffrait, plus il avait mal. Seigneur, pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi? Et là, il frappe, on le flagelle, on lui met une lance dans le côté. Ah, Et là, ça crie, mais c'est comme s'il prend la place dans le mur. Mais ce que le diable ne savait pas, c'est qu'à un moment, il faisait ça. Plus il frappait et plus ils étaient en train de créer une ouverture, une brèche. Et tous ceux qui mettent leur foi dans ce Jésus qui est mort à la croix ont accès à la vie éternelle. Waouh! Et c'est pour ça qu'il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Je ne suis pas le verrou. Je suis l'introduction. Je ne suis pas la conclusion. Je ne suis qu'une transition vers. Je ne suis qu'un accès à auprès du Père. Toujours accessible. Et tant et aussi longtemps qu'on aura un souffle sur terre, cette porte est là. Tant et aussi longtemps que Jésus ne sera pas revenu rechercher son église, cette porte est là. Mais un jour, puis le malaise là-dedans, c'est qu'on ne sait pas quand il va revenir, puis je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Mais le jour où mon souffle éteint, cette porte se refermera. Elle sera ouverte pour ceux qui sont vivants, mais pour moi, elle sera fermée. Parce que ça sera trop tard. Parce que c'est maintenant qu'il faut choisir la porte que l'on veut prendre. L'humanité était comme dans un labyrinthe. Je l'ai décrit, là, cette chambre noire, ce dôme, mais c'est un labyrinthe. Tourne en rond, essaye les lois, essaye ceci, essaye les bonnes œuvres, essaye de... Je me mets mes objectifs par année, puis là, ça va aller. Puis on n'arrive pas à avoir une meilleure version de soi-même. Et puis un vrai labyrinthe, frappe ici. Un labyrinthe sans porte de sortie. Et un labyrinthe sans porte de sortie, ce n'est plus ni moins qu'une prison. Et Jésus dit, je suis la porte. Alors je termine, j'aimerais inviter les musiciens. En terminant avec la dernière diapo, Miché nous dit, ils franchiront la porte et sortiront par elle. Depuis là, 700 ans avant Jésus, depuis Jésus, 2000 ans environ jusqu'à aujourd'hui, ils franchiront la porte. Il y a des milliers et milliers de personnes, d'hommes et de femmes, noirs, blancs, rouges, jaunes, verts, malades, en santé, qui ont franchi cette porte. Vous qui êtes là, la plupart d'entre vous qui êtes là, je pense même la majorité, avez franchi la porte. Et demain, il y a encore des gens qui vont franchir la porte parce qu'elle est ouverte. Et la question que je pose à toi qui m'écoutes sur Internet, à toi qui es là dans ce lieu, de quel côté de la porte te trouves-tu? Ne veux-tu pas franchir cette porte? Je ne t'invite pas à venir à l'église du CEP. Il y en a plein des églises partout. Je ne t'invite pas dans une religion. Je ne t'invite même pas dans le mouvement évangélique. Je t'invite juste à regarder cette croix. C'est pas la même, mais symboliquement, oui. Puis dire que cette croix, peut-être que tu portes autour du cou. Je connais des athées, même des incroyants, pas des athées, mais des gens qui n'ont pas plus de foi que ce qu'il faut, qui ont une croix autour du cou, parce que ça fait beau, parce que voilà. Parce que quand ils sont nés, c'était écrit, voilà, je suis des chrétiens, catholiques ou protestants. Que cette croix-là, ce n'est ni plus qu'un homme qui était déchiré. Pour faire un mur, un trou dans ce mur, une brèche, de façon à ce que tu puisses sortir et découvrir les pâturages qu'il y a pour toi. De quel côté de la porte es-tu? Quand cette matinée va être terminée, sans toi et Dieu, puis si tu écoutes sur Internet, trouve une église, un pasteur, un responsable, quelqu'un que tu connais, un ami qui connaît quelqu'un, mais organise-toi pour voir quelqu'un, et pour vous qui êtes là aujourd'hui, si c'est ton cas, puis dire, écoute, moi, là, je réalise que je ne suis pas du bon côté de la porte. Est-ce que tu peux m'aider à la franchir? Est-ce que tu peux m'aider à mieux comprendre? Et on va prier pour toi. On va te donner une Bible pour que tu puisses vraiment découvrir qui est Dieu, qui est Jésus. Puis tu puisses grandir dans ta foi. À la fin, tu peux le faire, ça. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur parce que toi tu es l'introduction parfaite. Puis
tu es là ce matin, je le sais que tu parles à plusieurs d'entre nous. Tout simplement parce que tu existes, tu es vivant. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de mettre des sensations fortes pour confirmer ta présence. Tu es simplement là. Tu nous attendais, et tu parles à nos cœurs. Et, Seigneur, je prie que nous puissions toujours passer par toi dans nos besoins. Je prie que s'il y a quelqu'un, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, peu importe l'âge ou l'arrière-plan, que vraiment, Seigneur, ma prière, c'est que tu aies pu ce matin te révéler comme étant celui qui a le meilleur pour elle ou pour lui, comme celui qui délivre, celui qui engloutit les péchés dans les profonds de l'océan, tu les mets en oubli, celui qui a souffert parce que tu nous as aimés. Qu'on puisse sortir de ce lieu, Seigneur, avec la joie d'avoir passé du bon côté de la porte, toi. Et fais-nous découvrir la suite de notre destinée en toi. Amen.